parti jusqu'à midi.
Monsieur. Et quoi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez?
Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet.
C'est sec ou c'est doux?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
Pas trop doux.
Ah, si c'est doux, voulez-vous un demi-sec?
Non, je préférerais un demi-doux.
Allez, on va démarrer cette heure apéritive avec l'essentiel en ce qui nous concerne ce week-end, le livre de jolis feuillets à lire une fois dans sa vie. Cela parle cuisine, d'art culinaire et tant d'autres choses. Alexandra, je vous ai demandé de venir ce matin avec le livre qui, à votre sens, doit être absolument lu une fois dans son existence. Ça s'appelle « La cuisine de la consolation ».
Absolument. Alors moi, c'est un livre qui me touche beaucoup parce que effectivement, le sujet du visible et de l'invisible relié par l'alimentation, c'est le cœur même de mes projets. Donc la cuisine de la consolation, c'est un tour du monde,
oui,
des rituels qu'on fait pour rappeler, pour reconnecter les morts, les ancêtres. Donc finalement, on se rend compte que partout dans le monde, on a des moments privilégiés où on cuisine des plats, mm-hmm, pour essayer de retrouver les saveurs, finalement, cette reconnexion avec ceux qui sont partis. Après, voilà, moi, je trouve que la femme Stéphanie Schwarzbrod, qui a écrit le livre,
ouais,
parle du fait que cette thématique lui est venue par une histoire. Donc c'est une pièce de théâtre sacre de Lorraine de Sagazan qui parle d'une femme qui a cuisiné peu avant sa mort un nombre de raviolis énorme, ouais, qu'elle a congelé et que ses amis se réunissent régulièrement pour les manger. Voilà.
C'est ça.
Et je trouve que c'est voilà, ça, en tout cas c'était une histoire qui m'a beaucoup interrogée et qui m'interroge également par rapport à la fermentation, par rapport au vin. Alors j'ai un très bon ami qui est vigneron et sculpteur dans la Sarthe depuis des générations.
Ouais.
Et donc de temps en temps, pour ses amis proches, il débouche des bouteilles.
Ouais.
Il a des bouteilles qui datent encore de 1750, donc
wow,
avant la Révolution française.
Dingue.
Et ça interroge sur le fait finalement que quand on débouche ces bouteilles, qu'est-ce qu'on boit? On boit la sueur, on boit le souffle de ses ancêtres.
On boit des vies, en fait.
On boit des vies, on boit l'air de cette époque.
Ouais.
Et voilà, je trouvais que ça, en tout cas, c'était toutes
ça vous
des
a parlé.
C'est toutes des thématiques,
donc,
évidemment, qui relient.
Et donc, le propos, évidemment, de ce livre, La cuisine de la consolation, c'est la cuisine, mais la cuisine avec tout ce qu'elle peut offrir intérieurement. Et c'est toute la richesse de la littérature culinaire, c'est que c'est pas seulement de la recette, évidemment. Michel Verlinden, en ce qui vous concerne, un livre qui touche au vivant aussi, pour le coup.
Voilà, au vivant et à l'invisible,
ouais,
puisque c'est un livre qui s'appelle Fermentation. Qui parle
bien
de
connu.
Fermentation. Donc, c'est un livre qui date d'il y a une dizaine d'années, je
ouais,
pense, écrit par Sandor Elix Katz.
Ouais.
Et c'est vraiment, c'est ma Bible. Je la consulte toutes les semaines pour m'enquérir de l'état de mon levain, que j'appelle Chucky. Mon levain s'appelle Chucky.
Chucky.
Ouais,
c'est
mon levain.
C'est mignon.
Comme ça,
ouais,
je pénétrer un peu dans dans mon intimité.
Est-ce qu'il attaque ou pas?
Non, de temps en temps, il se répand parfois un
c'est
peu.
Ça.
Ouais.
Bon.
Voilà,
et donc, ça nous plonge, ça nous donne une foule de recettes.
Oui.
Mais c'est aussi important de rappeler à nos auditeurs que faire son levain, aujourd'hui, ça prend une dimension très particulière.
Oui, hein, absolument.
Il y a eu un retour aux sources, hein, cette technique qu'on avait oubliée.
Pour moi, c'est une manière de ne pas être un nécrophage.
Ouais.
C'est manger du vivant, enfin,
ouais,
accompagner le vivant. Donc, c'est vraiment important. Moi,
Tiens, d'ailleurs, si vous allez chez le boulanger là ce matin, vous demandez un pain fait avec un bon levain. Ça fait sens, évidemment. Éric Boschmann, vous êtes venu avec un grand classique de la littérature culinaire par un grand personnage. Ça s'appelle La cuisine paléolithique par...
Joseph Delteil.
Voilà, j'avais oublié son prénom.
Joseph Delteil, qui est un surréaliste, qui est connu...
Poète, écrivain.
Première heure de gloire, fin des années 20, qui se fait virer des surréalistes par Breton.
Ouais.
Ce qui est déjà un gage de qualité.
On concerne le personnage.
Quand on se fait virer par Breton, déjà on sait qu'on a atteint.
On a high level.
Ouais, on a atteint l'immortalité. Et il sortir pour des raisons de santé juste à côté de Montpellier, une trentaine de kilomètres, dans une espèce de. Il appelle ça sa thébaïde. Et une maison où on fait du vin.
Ouais.
On fait du raisin, mais on fait aussi des fruits, des légumes, etc. Il vit en quasi-autarcie, il continue à publier, et en 1964, année exceptionnelle, il sort un bouquin qui s'appelle « La cuisine paléolithique », et qui est pour moi un truc incroyable, c'est le brutalisme appliqué à la cuisine. Vous connaissez, nous connaissons William Hill, Et pour moi,
Willem, qui est donc chef en Flandre, qui est, bien qui entendu,
et qu'on aime beaucoup,
qui est Sébastien Chabal avec un cerveau et du goût. c'est, mais physiquement, voilà. Et pas confondre avec Sébastien Charal qui a inventé le steak haché.
Ouais.
Et Willem pratique la cuisine brutaliste. Et c'est
quoi,
très
c'est
drôle.
C'est un retour au savoir-faire ancestraux, à la manière que nous avions nous alimenter.
C'est
quoi,
revenir
exactement
à la simplicité, à l'essentiel du goût.
Ouais.
Je plaisantais avec le monsieur anonyme invisible de tout à l'heure, et je lui racontais la recette du lapin à la paléolithique.
Ouais.
Ça tient en quatre lignes.
Ouais.
Parce qu'une recette, ça doit être simple. Mmh. Prenez un lapin bien dodu, un lapin de Garenne. Ouais. Évidemment, tuez-le. Suspendez-le par les pattes arrière à un beau conifère. Mettez le feu à 20-25 hectares de forêt et puis mangez le lapin sans sel assis sur un caillou encore chaud. Et je trouve ça tellement drôle comme recette, tellement insensé que c'est vraiment... je trouve ça assez magnifique. Mais il y a des vraies recettes dedans, mais qui sont des recettes à l'os, en fait, simplissimes. Et quand on est dans une époque de cuisine où on nous met 32 ingrédients dans une assiette avec une réduction de légumes fermentés ajoutés yuzu, etc., on goûte plus rien.
Ça s'appelle revenir aux fondamentaux,
à l'essentiel.
Et un hymne de cuisine à la cuisine de l'instinct, finalement.
Totalement.
Et ça s'appelle La cuisine paléolithique de Joseph Delteille.
C'est toujours publié.
Et je me souviens avoir lu, mais ça date déjà les Delteilleries. Oui, parce que mon père l'avait dans sa bibliothèque. J'ai un peu lâché le truc parce que j'étais peut-être pas assez mature, mais
c'est vraiment chiant à lire.
Il racontait déjà un monde plus simple, sans fioritures. Et
c'était un grand ami d'Henry Miller et de gens comme ça.
Exactement. Au niveau de votre actualité, il y a évidemment ce spectacle, Eric Boschmann, mais il y a aussi une activité de vigneron.
Je savais toute ma vie.
Et là, je veux tout savoir. Ça s'appelle le domaine
de Montjumont. Ouais,
on est où exactement?
On est à Civry-Rance, dans la Botte du Hainaut, que l'on voudrait appeler d'ailleurs Botanie, et de moins en moins Botte du Hainaut.
Oui, c'est vrai.
C'est joli, Botanie.
C'est très joli.
Et on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est mignon.
Ouais.
Et j'ai une associée extraordinaire qui s'appelle Sophie Leclerc. Et,
elle est
sa famille. Elle est déjà vigneronne dans un domaine qui se trouve dans le Luberon, domaine des Les David.
Ouais.
À Viens, à côté de Bannon. C'est Bannon des Sources, vous vous souvenez?
Oui.
C'est juste à côté. Et je peux toutes les faire. Hein. Je suis en forme ce matin. Et donc, j'ai eu la chance de croiser Sophie. La vie, c'est parfois des coups de peau.
Ouais.
Et voilà, on s'est parlé. On s'est reniflé.
On rappelle quand même, pour ceux qui auraient zappé un épisode de votre vie, vous êtes grand expert vin, sommelier, ce qui explique ça. Hein. C'est que cette rencontre, à un moment, elle a trouvé écho.
Quand j'étais jeune, j'ai fait plein de trucs. Je suis maître fromager, maître sommelier. J'ai plein de trucs que plein de gens n'ont pas fait.
Mais quoi, l'idée a germé de créer un domaine en Belgique?
Oui, elle y tenait particulièrement. Alors, elle a déjà une propriété un peu plus au sud.
Ouais.
Et elle a des pommes. Donc, il y avait dans mon boulot de valoriser les pommes. Donc, on est parti sur l'idée de faire du cidre, de faire un cidre, vraiment un cidre ultra nature, donc sans levure ajoutée, sans sucre, sans gaz, sans filtration, sans eau, etc.
Ouais.
Ouais, et les essais marchent bien. Je suis pas tout seul sur le coup là-bas, parce que j'ai un acolyte.
Mm-hmm.
Et puis, l'appétit vient en mangeant, et on s'est dit, mais pourquoi pas, elle s'est dit, pourquoi pas un vignoble? Et donc là, on aurait dû planter dans la semaine prochaine, et on va reporter tout d'un mois à peu près, parce que les sols sont détrempés. Depuis novembre, il n'y a pas passé 10 jours sans pluie.
Oui, ça a été compliqué. Mais l'idée de ce domaine, c'est quoi? Un domaine en agroforesterie, comme on
total
en entend beaucoup parler? C'est
nous,
un retour aux sources, véritablement, de la vigne?
En fait, on a pris le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a implémenté l'agroforesterie avant.
Ah, donc il n'y a pas encore les vignes?
Donc on réfléchit à tout.
D'accord.
Et l'implantation des vignes a été faite conséquemment à la notion d'agroforesterie.
D'accord.
Ça n'a jamais été fait. Donc on alterne aussi les pommiers et les vignes. On travaille qu'avec des cépages interspécifiques,
multirésistants. Donc adaptés au climat belge, mais qui se réchauffent d'ailleurs. Il y a eu une étude qui a été publiée cette semaine par le magazine Nature. Le sud de la France, l'Espagne, etc.,
c'est ce qu'ils disent.
Ça passe au rouge, tandis que chez nous, on a l'impression que c'est le nouvel Eldorado de la vigne.
Alors, on a tout ce qu'il faut. On a de l'espace, on a des sols, on a du climat. Donc c'est, en même temps, ça va résoudre le problème communautaire puisque l'eau va monter. Donc on va rester entre, on peut pas dire. Et donc on va faire, je pense qu'on pourra faire des grandes choses.
Ouais.
Et l'intérêt pour moi de l'interspécifique, c'est que ça va nous permettre de nous démarquer. Il ne faut pas oublier qu'il y a une notion économique dans le vin.
Ouais.
Et faire du chardonnay passer en barrique d'excellente qualité, moi, j'ai rien contre.
Non.
Mais je ne vois pas où ça mène. Tandis que de faire du souvenir, on est les seuls au monde à faire. En fait, la Belgique.
Oui, ça veut dire que on va avoir des particularismes grâce à ces interspécifiques, ces cépages, donc, qui étaient au départ utilisés pour s'adapter à notre climat, qui n'était pas le climat idéal pour la vigne, en l'occurrence.
Mais qui fonctionne bien. Ouais. Et pas oublier, on va arriver aux 1000 hectares. Alors, tout le monde fait waouh, 1000 hectares. Toute la France, c'est beaucoup plus, mais rien que la Champagne, c'est 33 000 hectares.
Oui, mais enfin, pour la Belgique, pour nous, c'est déjà un
presque le Luxembourg.
C'est déjà
presque
un très
le Luxembourg.
Ça vous parle, ça, Alexandra Swenden et Michel Verlinden, ce projet d'agroforesterie, de vignes, là, dans le cœur de notre terroir belge?
Ah ben, tout à fait. Enfin, moi, ça fait aussi quelques années, par le collectif Soulmates, en fait, que j'ai un vrai intérêt pour la défense et la prise de conscience que le sol vivant est en train de disparaître.
Mmh.
Donc, je pense que surtout au niveau des vignerons, on a vu les dégâts évidemment dans le Bordelais et d'autres régions. Ça me semble indispensable quand on commence un nouveau projet, et certainement en Belgique, d'avoir cette conscience-là.
On a l'énorme avantage de partir d'une feuille blanche.
Ouais.
Et donc,
avec
un peu de réflexion, on peut éviter de faire les conneries des autres.
Ouais.
Nous, on a bossé avec des consultants et locaux et français, dont Marceau Bourdarias, au niveau de tout ce qui est agroforesterie.
Ouais.
Et on fait de l'agriculture régénérative. Enfin, on ne pense que comme ça.
Ouais.
Implication d'animaux aussi. Avec les voisins. Donc les vaches vont bouffer dans les vergers.
Enfin,
les
moutons, un vrai projet durable, éthique, faisant sens. Et vous êtes donc à la tête de ce projet. Et on est donc au domaine Montjumeau.
Je participe à la chose.
En Botanie. Voilà.
Dernier coup de bol.
Ouais.
C'est que c'est à 4 km de la maison de mes parents.
Mais non.
Où j'ai passé mon enfance. Et
moi,
c'est un coup de bol.
Si j'étais votre psy, je dirais que c'était inscrit. Hein.
Je pense que c'est un retour aux sources.
Ouais, y a pas de hasard, on le sait bien. Il y a que des rencontres.
C'est un truc de fou.
Hein, c'est dingue. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Moi, je vous ai apporté un de mes vins préférés. Il est belge aussi, le domaine La Falise. Alors, pour le coup, là, c'est du chardonnay qui a été utilisé. Donc, je vous invite, Eric, à nous le déboucher. Et à faire le service. Et en ce qui nous concerne, elle va s'offrir un peu de musique avec Prince. Et juste après, on parle de très jolis projets au confluent des grands arts résolument.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.